Bonjour aux peu de personnes que je n'ai pas saluées ce matin. Je vous propose deux textes pour introduire notre réflexion. Je vais lire dans la Bible version Semeur. Donc le premier c'est Luc 9 et le deuxième c'est Marc 10. Luc 9, versets 57 à 62. Ils étaient en chemin lorsque un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Il dit à un autre homme, « Suis-moi. » Mais l'homme dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore dit, « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara, « Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. » Et donc le deuxième texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, au verset 17 à 31. Ce texte, en fait, nous l'avons suivi la semaine dernière, je crois, dans notre groupe de quartier, et ça m'a donné l'occasion de réfléchir dessus. Donc, Marc 10, 17. « Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. » Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par ton prix, respecte ton père et ta mère. L'homme lui répondit, Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. Jésus le regarda avec amour et lui dit, Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent troublés par ces paroles. Mais Jésus leur dit encore, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient de plus en plus étonnés et ils se demandèrent les uns aux autres, « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit, « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus lui répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi et pour la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs, avec des persécutions aussi. Et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. » Vous aurez deviné que le thème commun à ces deux passages concerne l'engagement du disciple. Jésus est décidément un homme moderne. En effet, je lisais mercredi dernier en buvant mon café du petit matin, ceux qui me connaissent savent que je bois mon café très tôt le matin, un article sur un essai philosophique d'un jeune auteur qui s'appelle Tristan Garcia, que je connaissais pas, intitulé « La vie intense ». Je vous lis quelques extraits de cet article. L'homme contemporain se reconnaît vite dans le portrait que fait Tristan Garcia au début de son essai « La vie intense ». Le moderne d'aujourd'hui, écrit-il, veut par-dessous tout être intense. Il recherche le sentiment de vivre vraiment, cette étrange force intérieure qui détermine le degré d'engagement d'un homme dans ce qu'il ressent. L'important n'est pas le contenu de l'expérience vécue, mais le degré auquel on la vit, le choc qu'il fait ressentir. En art, pour juger de la valeur d'une œuvre, seul compte de déterminer si la chose est forte. L'amour, le travail, le loisir, la spiritualité, la morale, tous les registres de notre vie sont soumis à ce devoir d'être incandescent et à cette haine de la tiédeur. L'intensité n'est pas un état ou une qualité stable, c'est le ressenti d'une variation. Or, l'habitude émousse. La chute libre est assurément une expérience intense. Mais si je saute d'un avion tous les jours pendant 30 ans, l'intensité va décroître. Je retombe dans la tiédeur au nid. Ainsi, l'intensité de concept métaphysique devient valeur morale, entre guillemets, un idéal sans contenu purement formel qui va de pair avec la crise spirituelle moderne. Ah. On ne s'accordait pas sur ce qu'il fallait vivre, écrit Garcia, mais on pouvait s'entendre sur la façon de le vivre, intensément. Or, comme beaucoup d'idéaux modernes, l'intensité est intenable parce qu'elle s'auto-annihile. Annihile, excusez-moi. Enfin bref, s'auto-détruit. Ça va aller plus vite. Dès lors qu'elle s'installe, faut dire que c'est un philosophe qui parle, hein. Bon, alors, il emploie des termes un peu. Dès qu'elle s'installe, sans cesse rattrapée par la routine, forçant l'homme à lutter contre sa propre propension, c'est-à-dire son propre penchant, à rester quelque chose. Ben oui, je suis fidèle au texte, hein. D'où, selon Garcia, l'immense fatigue de la culture moderne. À la fin de son essai, il pose la question, renoncer à l'intensité, d'accord, mais pour être quoi? Nous serions tout aussi incapables de revenir à la sagesse antique, à l'amour de l'immuable. Cette situation historique intermédiaire inconfortable, c'est l'espace dans lequel Garcia écrit tous ses livres. Penché sur la tombe du moderne, il livre une oraison funèbre, un peu triste, pleine de tendresse. Il ne hurle pas comme certains essayistes réactionnaires contre ces salauds de contemporains. Il en est un lui-même et il cherche patiemment quelque chose d'autre à être. Fin de citation. Il cherche patiemment quelque chose d'autre à être. Alors, tout le mal que je souhaite à cet auteur, c'est qu'il rencontre quelqu'un qui lui explique qu'il peut devenir quelqu'un d'autre en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais le monde qui nous entoure cherche à nous influencer en douceur, à nous suggérer des modes de pensée, des modes de comportement qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Certains appelleront cela des combats spirituels et ils n'auront pas tort. Mais ceux ou ces combats sont subtils, car ils ne disent pas son nom, leur nom. Il y a comme une forme d'invitation pressante à se conformer à une certaine pensée qu'on qualifie en politique de pensée unique. Un exemple très en vogue. Conscient que les ressources de notre planète sont limitées et que l'augmentation de la population mondiale et son niveau de vie vont, à un moment ou à un autre, nous mener à une situation critique, il est de plus en plus question de suivre un modèle de consommation plus simple. On parle même de décroissance. Et parmi les aspects de cette évolution, on a conscience dans les pays riches qu'on devrait, par exemple, réduire notre consommation de viande. Et même, pourquoi pas, de devenir végétarien. Alors, c'est dans les années 70-80, le végétarisme semblait relever d'un exotisme hippie. Et c'est devenu, en fait, aujourd'hui, dans la conscience des Occidentaux en tout cas, une vertu citoyenne. Là où le bas blesse, hein, c'est qu'on accompagne cette évolution souhaitable d'un discours, d'une idéologie naissante sur le droit des animaux, leur statut juridique, la question de leur souffrance, qui peut déboucher sur une conception de la création qui n'est plus grand-chose à voir avec la Genèse. Et là, à mon sens, il y a une bataille spirituelle qui se profile pour nous chrétiens. Deuxième exemple d'invitation pressante, le droit et même le devoir d'être heureux, de réussir sa vie, et bien sûr dans tous les domaines, d'où, pour les femmes par exemple, le mythe de la superwoman qui est une épouse comblée, une maman attentive, une professionnelle épanouie, une sportive émérite, j'en passe et des meilleurs. Or, le Nouveau Testament ne nous promet pas le bonheur permanent. L'Ecclésiaste en avait la préscience, quand il dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » C'est un des versets préférés dans l'Ancien Testament, c'est Ecclésiaste 7,14. Ceux qui veulent noter. Le Nouveau Testament emploie 5 fois seulement le mot « bonheur ». Et seul Acte 20,35 nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ce qui n'est pas franchement compatible avec l'idée de réussite qu'on nous vend à longueur de journée. Quand on lit en Marc 10,30 que celui qui s'engagera totalement recevra 100 fois plus dans le temps présent, Jésus nuance sa promesse par un avec des persécutions. Et tout à l'heure, on a lu, Eric a lu un passage, je l'ai noté, mais j'ai oublié de prendre ma Bible. Alors, attendez, j'ai pas. Elle est là. Dans la même idée. Je vais essayer de le retrouver. J'improvise là, hein. C'est pas mon style. Alors, c'était Romains 8, oui. Et c'était à quel endroit? Voilà. Puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Et donc, je reprends mon texte. Bon, la notion de la persécution, ce n'est pas très à la mode dans nos sociétés judéo-chrétiennes. Alors, que faut-il comprendre? Si ce n'est, comme le montre l'Ecclésiaste, qu'il faut profiter du bonheur quand il est là, car il y aura immanquablement dans notre vie des épreuves, des difficultés et même des persécutions. Autre injonction dont parle Tristan Garcia, et je reviens à cet article, qui s'avance masqué dans notre époque moderne. Vivre intensément. Vivre à 200%. Je ne suis pas un grand fan de publicité, mais souvent, je regarde un tunnel de publicité comme un sociologue. C'est très édifiant. Dans 80% des pubs, vous voyez des enfants, des ados, des jeunes adultes, des quadras, des quinquas, des vieillards. Ils ont tous un point commun, ils pètent le feu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors ils respirent la joie de vivre. C'est fantastique. Pas de handicap, pas de surpoids, pas d'arthrose, pas de blues. La vie rêvée. Revenons à notre article. À cette étrange force intérieure qui détermine le degré d'engagement d'un homme dans ce qu'il ressent. L'important n'est pas le contenu de l'expérience vécue, mais le degré auquel on la vit. L'intensité n'est pas un état ou une qualité stable, c'est le ressenti d'une variation. Voici le concept clé de notre époque. Le ressenti. Le mot est lâché. Il est fascinant pour moi de voir l'évolution des formes de pensée quand on les examine sur, en gros, les 100 dernières années de nos sociétés occidentales. Je ne vais pas faire un développement très long, rassurez-vous, sur les 100 dernières années, mais bon, grosso modo, après l'affrontement des deux grandes idéologies qui ont émergé avec la révolution industrielle, le capitalisme contre le communisme, système contre système, il faut bien comprendre que l'existentialisme ensuite a façonné la deuxième moitié du XXe siècle. Et bien sûr, vous direz-vous, mais qu'est-ce que c'est que l'existentialisme? C'est pas un gros mot. Je vous donne une définition très rapide donnée sur Internet par un prof de français qui me semble assez pertinente. Le courant philosophique dont se réclamait Jean-Paul Sartre est l'existentialisme. Créé au XIXe siècle par Søren Kierkegaard, l'existentialisme est un courant de pensée au sujet de l'existence humaine et de la façon dont nous nous positionnons dans le monde. Quelques philosophes et auteurs existentialistes du XXe siècle sont Albert Camus, Simone de Beauvoir, Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Nicolas Berdiaïev et Martin Buber. Alors il y a, dans les huit que je viens de citer, quatre Français. Les Français n'ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. L'idée principale de l'existentialisme, c'est que l'existence précède l'essence. Je répète, l'existence précède l'essence. Cela signifie, alors c'est tout à fait l'inverse, en fait, du concept biblique d'existence. Mais bon, passons. On en reparlera après. Cela signifie que les êtres humains n'ont pas de valeur avant leur existence, ni valeur, ni bonté, ni but. Il n'y a pas de raison fondamentale de notre existence. Au début, nous existons, puis nous devenons des êtres distincts. Le corollaire, c'est-à-dire la conséquence de cette idée, est que notre essence est déterminée par nos choix et nos actes. Nous sommes des êtres libres, donc la façon dont nous agissons montre vraiment qui nous sommes. Cette idée du choix est primordiale pour Sartre. Il la souligne avec beaucoup d'insistance. Nous sommes responsables de nos actes, de nos choix, et réellement de ce que nous sommes. Ceci explique pourquoi Sartre était si engagé politiquement et pourquoi, dans ces dernières années, il est devenu plus activiste qu'existentialiste. Pour les existentialistes, il n'y a pas de Dieu, ni de nature humaine. Nos choix sont ce qui nous détermine, Mais qui est-ce qui guide le monde? Pour les existentialistes, personne. Le monde est indifférent et hostile. L'essence du monde est déterminée par hasard et les actes du monde sont aussi déterminés par hasard. Dans la liste d'existentialistes que j'ai cité, il y avait un théologien, Kierkegaard. En fait, c'est un Danois. Je pensais que c'était un Allemand parce que je pense toujours que les Allemands ont des gens.
Pas,
oui, ils sont, oui, ils ont toujours des grosses têtes. Hein. Ils sont théologiens presque tous d'ailleurs. Et en fait, bon, c'est un Danois né à Copenhague, mort à Copenhague, donc 1813-1855. Considéré comme le premier théoricien de l'existentialisme. Quel est le point central de sa pensée? Alors là, j'ai pris Saint Wikipédia pour me renseigner. Wikipédia nous dit ceci. Kierkegaard soutient dans un ouvrage qui s'appelle Postscriptum définitif et non scientifique aux miettes philosophiques. Alors déjà, rien que le titre, ça donne mal à la tête, hein. Que la subjectivité est vérité et que la vérité est subjectivité. Bon. Cette idée paradoxale ressort d'une distinction entre ce qui est objectivement vrai et la relation subjective qu'entretient un individu avec cette vérité, indifférence ou engagement. Bon, plus simple après, rassurez-vous, Kierkegaard insiste sur le fait que la vérité qui importe aux chrétiens est la vérité subjective qui consiste en vie intérieure. Plus il y a de vie intérieure, plus l'individu est dans la vérité. Plus il y a de vie intérieure, plus l'individu est dans la vérité. La vérité objective, par exemple, une connaissance intellectuelle, ne peut devenir vérité subjective que si elle me pousse à changer de manière d'agir. Pour faire simple, Kierkegaard pense que l'apologétique, alors, il faut que je définisse peut-être l'apologétique pour certains, c'est-à-dire, non mais c'est très simple, c'est la défense de la foi chrétienne basée sur la raison. Quelles sont les raisons objectives que la Bible dise la vérité, grosso modo. Donc pour lui, l'apologétique, ça sert strictement à rien. Alors c'est déjà un point. La foi ne se prouve pas, dit-il, mais elle s'éprouve. Elle s'éprouve. Conséquence, peu importe que Dieu existe, l'important c'est de croire que Dieu existe. Le croyant fait, crée Dieu. Voilà, il dit, voilà, Dieu existe, donc il existe. Formidable. Et donc il doit régler sa vie en conséquence. Peu importe que la Bible soit ou non la parole de Dieu, l'important c'est de croire qu'elle l'est. Et parce que le croyant affirme qu'elle est parole de Dieu, elle le devient. Alors ça, si on réfléchit à ça, c'est exactement l'inverse de ce que nous croyons. Nous croyons objectif que la Bible nous révèle Dieu. Là, ici, Kierkegaard, il dit, bon, peu importe les débats, la politique, tout ça, ça ne sert à rien. L'important, c'est de croire que c'est vrai. En conséquence, l'existentialisme affirme le primat, la supériorité de l'expérience sur le contenu, sur le fond. L'influence de l'existentialisme sur nos sociétés aujourd'hui est considérable. En politique, par exemple, moi j'aime bien la politique, excusez-moi, j'y reviens souvent, en fait, on s'aperçoit que les idéologues de la première moitié du XXe siècle, on va dire, jusqu'aux années 70, on va dire, peut-être 80, les idéologues ont fait place aux pragmatiques dans les débats. En fait, les hommes politiques sont des pragmatiques. Bon. Peu importe que les décisions ne soient pas ou plus prises dans le cadre d'un projet structuré, basé sur des valeurs clairement énoncées, l'important, en tout cas à court terme, c'est que cela marche. Et nous nous étonnons ensuite de voir que beaucoup de décisions qui, sur le coup, semblaient pertinentes, donnent, sur le long terme, des résultats catastrophiques. On peut prendre, vous allez me dire, je vais polémiquer là, mais on peut prendre l'énergie nucléaire. Dans les années 70-80, la France a fait le choix de l'énergie nucléaire pour assurer son indépendance énergétique à cause des premières crises pétrolières. On est resté dans le concert des pays riches grâce sans doute à ce phénomène, à ce développement très important de l'énergie nucléaire en France. Mais les générations qui viennent vont payer l'addition, on le sait tous. Et donc, on peut se poser la question, effectivement, sur le long terme, de la pertinence de augmenter notre production d'énergie en cassant l'atome. Dans le monde chrétien, le primat du ressenti se traduit, à mon sens, par le développement de certains mouvements charismatiques. Je dis bien certains, il ne faut pas me faire trop d'ennemis. Le développement de certaines formes de rassemblement, de réunions de prière, de réunions de louange, et même dans la conduite de culte où, sous prétexte de créativité, d'intensité de communion dans l'esprit, on assiste à des scènes étonnantes, pour ne pas dire plus. Donc, mes amis, si vous êtes amenés à déménager, il y en a qui le font en ce moment, avant de vous engager dans une nouvelle église, observez-la attentivement. Le Seigneur lui-même nous recommande d'être prudents comme les serpents. Je pensais que c'était prudent comme les colombes, mais j'ai relu Matthieu 9, 16. C'est prudent comme les serpents et innocent comme les colombes. Et examinez soigneusement ce qui en fait la dynamique. Dans l'existentialisme, on peut dire qu'en réalité, l'homme se substitue au Créateur, le remplace. Et comme l'homme est une coquille vide, quand il se coupe de son Créateur, on en vient aujourd'hui à ce vide existentiel. Et pour combler ce vide en forme de Dieu, quoi de mieux que la recherche d'une drogue ? Dans le domaine du foot, c'est l'ivresse du suspense, de la lutte, de la victoire, quand ce n'est pas l'ivresse tout court. Et dans le domaine de la pensée, c'est l'ivresse du ressenti. Puisque l'homme est devenu à mesure de tout et qu'il n'est plus en mesure de penser, il se concentre sur ses émotions. De plus, les progrès technologiques sont au service de cette noble cause. Ivre de sensations, ivre de vivre la vie intense, il tweete sa vie. Le tweet, illustration parfaite de la défaite de la pensée. 140 caractères. Vous savez ce que ça représente, 140 caractères? Moi, j'ai fait l'expérience avec ma police préférée. Alors, je ne parle pas de la police nationale, la police sur Word. Le comic sans MS, taille 11. C'est exactement cette police-là, vous voyez. Eh bien, 140 caractères avec une démarche étroite, je précise quand même, ça fait une ligne et demie. Une ligne et demie. Comment voulez-vous penser en une ligne et demie? Moi, j'y arrive pas, en tout cas. Mais revenons plutôt... Alors, donc, ce qu'ils font, les gens, quand ils tweetent, ils donnent leur ressenti, parce que, voilà, ça tient dans 140 caractères. Donc, à vous de juger si ça vaut le coup de tweeter. Revenons à la pensée de Dieu. Revenons à nos deux passages bibliques. Luc est un médecin, et donc, comme tout scientifique, c'est quelqu'un qui est méthodique. Quand on examine ce passage du chapitre 10, on voit qu'il est en tout cas peut-être plus que Matthieu, car le passage parallèle de Matthieu 8 ne parle que des deux premiers personnages, or ici, il y en a trois. Le premier, donc, c'est au verset 57, hein, chapitre 10. Ils étaient en chemin lorsque Jésus, l'homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Ici, Jésus ne propose pas à cet homme de le suivre partout. Il dit, « Moi, je n'ai pas d'endroit où me poser. Je n'ai plus de home sweet home. Je suis en mission pour mon Père et cette mission va se finir sans doute assez mal, c'est-à-dire, enfin, apparemment en tout cas, sur une croix. » Alors oui, il arrive que Dieu demande à certains de ses disciples, on pense à Paul notamment, par exemple d'aller en mission jusqu'à la prison et sans doute la mort, mais faut-il en faire une généralité? En tout cas, dans ce passage, pas vraiment. Passons au deuxième personnage, dont Matthieu nous précise que c'est un disciple, mais donc pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui se réclame de Jésus. Il dit à un autre homme, « Suis-moi. » Mais l'homme dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Alors, oui, mais Matthieu précise qu'il est un disciple. Luc ne le précise pas. Donc, je pense que c'est bien d'éclairer le passage. J'ai toujours raison, tu le sais. Bref, alors, est-ce que Jésus s'adresse simplement à cet homme ou par-dessus son épaule à tous et bien sûr à nous-mêmes? Le texte, dans sa simplicité, ne permet pas de répondre à cette question. On sait que quand une personne interpelle Jésus, celui-ci le connaît intimement et répond personnellement à son interpellation en appuyant souvent là où ça fait mal. En tout cas, pour nous chrétiens, enterrer l'un des nôtres, c'est un moment précieux de témoignage, un moment d'émotion, certes, la tristesse de la séparation, mais également la joie de savoir que notre bien-aimé a quitté cette vallée de larmes pour entrer dans la présence de Dieu. Quel bonheur de le ou de la savoir en sécurité. A contrario, quand des non-croyants enterrent l'un des leurs, quel néant, oserais-je dire. Le dernier auquel nous avons assisté dans notre famille me fait mieux comprendre cette parole. Laisse les morts enterrer leurs morts. Ce n'est pas ta responsabilité. Ne porte pas ce poids. Tu n'es pas responsable de tout. Ne te laisse pas écraser par le chagrin, entravé par les liens du passé. Tu as mieux à faire, nous dit Jésus. Toi, va porter la bonne nouvelle. Voyons le cas du troisième homme. Un autre homme encore dit, je te suivrai maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. Jésus lui déclara, celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Ici, il semble que ce troisième homme ait suivi la conversation de Jésus avec le deuxième, puisque Jésus dit au deuxième, suis-moi, et que le troisième lui dit de sa propre initiative, bon ben moi, je viens, je te suivrai. Et si vous comparez ensuite ce qui suit dans la bouche des deux hommes, on voit exactement le même schéma de pensée. Permets-moi d'aller d'abord. Le texte est répété deux fois. Le deuxième veut dire au revoir aux morts. Le troisième croit avoir plus de chance auprès de Jésus en voulant aller dire au revoir aux vivants. Eh bien non, raté. À chaque fois, il y a un mot de trop pour Jésus. Il y a le mot « d'abord ». Pour cet homme également, il y a quelque chose qui cloche. Jésus connaît son attachement à sa famille. Il sait que cet attachement sera un frein, voire un obstacle à sa progression, à son engagement. Alors, il préfère d'emblée annoncer la couleur. Si tu regardes en arrière, tu n'y arriveras pas. Si ta famille, tes racines sont plus importantes que moi, il y aura toujours un moment où cela coincera. Mes amis, voilà une parole qui nous concerne tous. Mettons-nous Jésus d'abord dans notre vie. Passons au deuxième texte, Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Alors la Bible se meurt, se distingue de toutes les autres versions classiques de la Bible. Et je les préfère parce qu'il dit en réalité « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Les questions d'héritage, on a parlé d'héritier tout à l'heure. La formulation de la question est bien étrange. Mais je me suis posé la question, mais ce jeune homme est riche. Pourquoi il est riche? Grâce à son travail? Était-il trader à la City de Jérusalem? Sans doute pas, à cette époque, on pouvait acquérir la richesse dès son jeune âge qu'en faisant comme beaucoup aujourd'hui, en étant héritier. Donc c'était un héritier, il avait toujours connu le confort, bien au-dessus des vicissitudes de ses contemporains, à l'image de ces princes saoudiens d'aujourd'hui qui traînent leur ennui dans les hôtels de grand luxe et achètent des clubs de foot européens pour se distraire. Mais lui semble prendre Dieu au sérieux et il est intéressant de constater que Jésus ne lui rappelle qu'une partie des commandements. Lesquels ? Les derniers. Oui. Les derniers. Ce n'est pas les derniers au sens de hiérarchie, mais c'est les 6 commandements horizontaux. Donc la deuxième partie. Ceux qui, par leur application, se voient le plus. Ceux qu'on retrouve dans toute société civilisée, qui sont acceptés communément. Alors pourquoi Jésus ne lui parle-t-il pas de sa propre mission, de la croix, de son sacrifice parfait qui va lui permettre, par la grâce seule, d'entrer dans la vie éternelle? Je crois qu'en fait, Jésus connaît très bien ce jeune homme, et même le texte confesse presque pudiquement qu'il l'aime. Il le connaît tellement bien qu'il sait que cela ne sert à rien de l'évangéliser. Car il faut que ce jeune homme fasse le tri dans son cœur. En effet, il faut d'abord que ce jeune homme choisisse entre Dieu et son patrimoine. Jésus met le doigt là où ça fait mal quand on le rencontre et aussi quand on décide de le suivre. Je saute plus loin au verset 28. Alors Pierre lui dit, écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus lui répondit, je vous le déclare, c'est la vérité, si quelqu'un quitte pour moi et pour la bonne nouvelle sa maison, où ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs, avec des persécutions aussi, et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle. Jésus nous invite à entrer dans un processus de transformation complète. Il nous invite à nous dépouiller peu à peu de nos fausses sécurités. Notre famille terrestre est pour recevoir une nouvelle famille 100 fois plus grande. Alors, dans l'avenir, non ? Dans le présent. Nous intégrons une famille spirituelle sur laquelle nous pouvons nous appuyer. D'une famille naturelle de quelques dizaines d'individus tout au plus, nous passons à une famille de centaines de chrétiens partout dans le monde, de tout milieu sociologique, avec toutes les compétences que Dieu donne par son esprit. Pour ma part, je suis très reconnaissant au Seigneur de pouvoir l'année prochaine entamer une formation de qualité de 3 ans en relation d'aide ici même à Nantes. Je me dis quand même, à près de 60 ans, je vais apprendre des choses. Et je n'ai pas eu d'effort à faire. Il se trouve que François Grebeau, qui est un ami de 30 ans, a suivi une formation avec donc une équipe à Paris sur un autre domaine. Et ça lui a tellement plu qu'il a milité pour faire venir une formation en relation d'aide à Nantes. Et ça faisait longtemps que nos collègues d'Agapé Famille nous avaient parlé de cette formation qu'ils ont suivie à Paris, qui viennent de finir il y a peut-être 1 an. Et on était un petit peu envieux. On disait, c'est bien d'habiter Paris quand même pour ça. Nous, bon. Et ben voilà, le Seigneur, dans sa bienveillance, il répond au-delà de nos attentes. Il nous met cette formation à disposition à Nantes le samedi, pendant 3 ans. C'est formidable. Puis je pense à tous ces gens qui, depuis 30 ans, on connaît grâce à Jésus-Christ. Des gens au Japon, des gens aux États-Unis, des gens un peu dans tous les pays. La joie de savoir qu'on va les retrouver au ciel, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Des gens qui nous ont apporté, par leur gentillesse, par leur amour, par leur qualité, par leur don spirituel que Dieu leur a donné. Alors, tout quitter pour le suivre, c'est sans aucun doute le bon plan que l'on ne regrette jamais. Investir dans le domaine financier, dans le monde financier, comporte une part de risque. Et toute la science des financiers est d'évaluer ce risque. Investir dans le royaume de Dieu, pour nous, est d'une toute autre logique. La seule limite qui soit, c'est celle de notre foi. Car en fait, il n'y a aucun risque, sinon de ne pas faire assez confiance à Dieu. Prions. Seigneur, c'est vrai que c'est toujours fascinant de plonger les regards dans ta parole et de voir quel est notre héritage, de voir que nous avons été précédés par une nuée de témoins, comme le dit Hébreu, que ces personnes nous ont transmis ta parole, nous ont transmis leur expérience, nous ont transmis cette espérance vivante que tu veux donner dans nos cœurs. Tu veux nous influencer, tu veux changer notre vie, tu veux nous voir épanouis. Mais nous le savons, cela a un coût. C'est le coût de l'engagement, c'est le coût de te faire confiance, c'est le coût de nous abandonner pour que tu nous transformes. Aussi bien dans les moments de joie que dans les moments d'épreuve. Et nous voulons, Seigneur, nous rappeler qu'il y a une couronne au ciel qui nous attend. Merci pour cette perspective glorieuse. Amen.